Galates 3. Ô intelligent Galate, qui vous jeta un mauvais œil à ne pas être persuadé de la vérité. Galate, auquel contre Dieu un Jésus en loin fut prographé parmi vous, ayant été crucifié. Ça signifie quoi? Ça signifie que les Galates avaient un problème, grosso modo, hein, par rapport à la vérité. Et on peut voir, de par les précédents chapitres de l'Épître, par rapport au vrai évangile, en fait. Je continue. Ceci seulement, je vais apprendre à partir de vous, du sortant des travaux de la loi, le sauve vous prite, ou du sortant de l'écoute de la croyance. Ok, posez une question. Ensuite, il met « Ainsi, inintelligent vous êtes, ayant originé dans le souffle, maintenant la chair vous surachevez. » Alors, comment comprendre ça? En fait, le souffle, c'est tout ce qui est relatif à Dieu, grosso modo. Et la chair, c'est tout ce qui est relatif au péché, grosso modo. Donc, il met « Ayant originé dans le souffle », c'est-à-dire « ayant compris de base l'évangile, d'accord? Est-ce que maintenant, vous le rejetteriez? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, vous seriez dans la chair comme les autres religions, comme les autres païens, si je puis dire, comme les juifs, etc., à rejeter l'évangile, en disant, non, c'est par la loi qu'on est sauvé, etc. Est-ce que vous comporteriez charnellement, est-ce que vous laisseriez votre chair parler, vous qui, de base, en fait, avez compris l'évangile? Vous qui, de base, était dans l'esprit, dans le souffle, si je puis dire. Est-ce que maintenant, vous serez dans la chair? Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il met vous surachevez. C'est-à-dire qu'ils sont déjà achevés, en fait. Ils ont déjà été achevés en ayant cru au Saint-Évangile, en étant dans le souffle. Ils ont déjà eu la vie éternelle, ils ont déjà eu le paradis d'offert. Ils ont déjà eu leur nom décrit dans le livre de vie. Et du coup, ça ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit pour essayer d'avoir ces choses, de les garder. Voilà. Donc là, il dit, vous surachevez en mode, t'es déjà achevé, pourquoi est-ce que tu vas essayer de te surachever en fait? Mais effectivement, si la personne, elle croit en l'évangile, au vrai évangile, qu'après, elle prêche un salut, enfin un évangile par les œuvres, bah, elle se contraint elle-même à faire des œuvres pour, entre guillemets, s'achever, en fait. Pour s'achever dans le sens pour s'accomplir, en fait. Pour avoir le paradis, mais en fait, elle l'a déjà eu. Donc voilà. Ensuite, on a quoi? Tant de choses vous souffrez sans cause, point d'interrogation. Ça fait un peu style... Vous n'avez pas renié l'évangile jusqu'à alors. Et ça vous a causé de la souffrance, etc. Et maintenant, vous changerez de bord. Après, mais si du moins aussi sans cause. Ça, je pense qu'on peut le comprendre comme signifiant que, en fait, le Seigneur châtie tout fils qu'il a agréé. Et que du coup, si à l'époque, qu'il croyait bien au vrai évangile, ben, le Seigneur a pu les châtier, c'est-à-dire les faire souffrir finalement, n'est-ce pas? Pour les ramener sur le droit chemin, si je puis dire. Et du coup, finalement, si le Seigneur les châtie, c'est parce qu'ils sont trompés, égarés, ou voilà, ils ont fait un truc qui n'était pas bien. Et du coup, ça aurait voulu dire qu'ils auraient souffert, non pas sans cause. Voilà. D'où le « si du moins, si sans cause », par exemple, pourrait supposer. Après, mais celui donc vous surfournissant comme corrège le souffle et en énergisant puissance en vous, du sortant des travaux de loi ou du sortant de l'écoute de la croyance. Donc ce que je comprends là, c'est que par surfournissant comme corrège le souffle, c'est-à-dire que d'une part il lui a donné le souffle de par la nouvelle naissance, d'accord, l'Esprit Saint. Et deuxième chose, c'est qu'il lui donne le souffle, entre guillemets plus littéral, qui permet vraiment genre de respirer chaque jour, en fait. Donc, Ça, c'est surfournissant, je dirais. Donc finalement, dire celui dont vous surfournissant comme courage le souffle, c'est comme dire, je trouve, celui donc. Enfin, je le comprends grosso modo comme signifiant celui qui vous permet de respirer, en fait, celui qui vous fait respirer. Qui vous fait respirer en plus de vous avoir fait naître d'en haut. Et c'est lui qui vous rend dynamique, en fait, qui énergise puissance en vous. Alors, en vous, ça peut être à l'intérieur de vous, ou ça peut être parmi vous. Voilà. Qui vous rend énergique, dynamique, grosso modo, qui vous. Comme je trouve, qui fait battre votre cœur, quoi, grosso modo. Du coup, il demande si ça vient des travaux de loi ou de l'écho de la croyance. Et le surfournissant aussi, il peut signifier en mode. Il vous fournit l'esprit malgré vos fautes, malgré vos péchés. Il va au-delà de tout ça et il vous fournit l'esprit, le souffle, le Saint-Esprit. Et après, le énergisant puissance en vous, il peut aussi être compris comme énergisant des miracles en vous, en fait. Parce que puissance, miracle, ça peut être la même en grec. Et en vous, ça peut être parmi vous. Mais en gros, voilà, ce que je comprends, c'est celui qui vous donne l'esprit, le Saint-Esprit, et celui qui vous donne de l'énergie, d'accord? Si je peux dire, cela c'est d'où que ça vient? Du travail de la loi ou de l'écoute de la croyance? Donc, franchement, ce verset 5, je trouve pas évident, alors je le mets de côté, d'accord? Pour l'instant. Après, on a quoi? Verset 6, selon comme Abraham crut au Dieu et il fut calculé envers une justice. Ok. Connaissez par conséquent en ce que ceux du sortant de croyance, ceux-ci sont fils d'Abraham. Là, c'est dans le sens, je pense, tel père, tel fils. Un peu comme on voit dans Jean 8 et dans l'épître de Pierre par rapport à Sarah. Ayant vu d'avance cependant la grâce, en ce que du sortant de croyance, il justifie les ethnies le Dieu, elle évangélisa d'avance. En ce que seront enélogées en toi toutes les ethnies. De sorte que ceux du sortant de croyance sont élogés avec le croyant Abraham. Donc là, à cause du participe ayant vu d'avance, je pourrais avoir l'impression que le texte cherche à justifier le verset 7 qui dit que. Ceux du sortant de croyance sont fils d'Abraham. Je pense que pour comprendre tout ça, le mieux c'est de commencer au verset 9. On dit de sorte que ceux du sortant de croyance sont élogiés avec le croyant Abraham. Pourquoi est-ce qu'ils sont élogiés? Parce que au verset 8, on nous dit que ils sont justifiés. En tout cas pour les ethnies. Ayant vu d'avance ce point en ce que. Du sortant de croyance, le Dieu justifie les ethnies. Donc, en gros, les ethnies, elles, sont élogiées avec Abraham, sachant que elles ont été justifiées par Dieu, du fait que ce soit du sortant de croyance, d'accord, si je puis dire. Qu'elles soient qu'elles aient été croyantes, en fait, tout simplement. Et à la fin du verset 8, on nous précise que les ethnies, elles seront élogiées avec Abraham. Comment? En Abraham. C'est-à-dire que c'est en Abraham qu'elles seront élogiées. Voilà. Du coup, c'est en Abraham qu'elles seront élogiées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que elles sont en Abraham. C'est-à-dire que. En fait, elles sont descendantes d'Abraham, en fait. Elles sont sperme d'Abraham, en fait. Voilà. Donc, elles sont fils, filles d'Abraham, si on veut. Car après, on a, car autant lesquels du sortant des travaux de loi ils sont, sous l'effet d'une contre-imprécation ils sont, car il s'est graffé sur contre-imprécation tout lequel ne reste pas dans toutes les choses ayant été graffées dans le papier de Bible de la loi pour les faire. En gros, ce verset, il nous fait savoir quoi? Que ben, la loi nous condamne, en fait. Et elle nous condamne même avec une malédiction. Et ça, elle condamne quiconque, même les ethnies, finalement. Car quiconque sort des travaux de la loi est sous l'effet d'une contre-imprécation, n'est-ce pas? Donc, si on est sous l'effet d'une contre-imprécation de par la loi, comment la loi devient de Dieu, comment est-ce qu'on peut être juste aux yeux de Dieu, en fait? Par la loi. Comment la loi pourrait nous dire d'un côté je te condamne, mais de l'autre je te justifie en même temps? Non, ça va pas ensemble, n'est-ce pas? Donc, c'est pas par la loi qu'on est justifié devant Dieu. Et du coup, verset 11, mais parce que cependant, en loi, aucun est justifié à côté du Dieu. Évident. Voilà. En ce que le juste, du sortant de croyance, se vivra. Donc là, il défend son propos, il justifie son propos en citant l'écriture que voilà, le juste, il vit de par la foi, en fait. Voilà. Verset 12, il met. La cependante loi n'est pas du sortant de croyance, mais le, les ayant fait humains, se vivra en eux. Donc c'est quoi? C'est la loi n'est pas de ce qui justifie devant Dieu, en fait. C'est pas du sortant de croyance. Mais, j'aime bien ce mais et le cependant, parce que c'est par rapport au verset 11 qui dit que la loi nous condamne, grosso modo, il ne justifie pas devant Dieu. Du coup, mais. Malgré tout ça, mais les ayant fait humains se verra en eux. L'humain ayant fait ces choses, c'est-à-dire les travaux de la loi, se vivra en eux, vivra en eux, en fait. Donc, bien que la loi ne justifie pas devant Dieu, car l'Écriture dit que le juste du sortant de croyance vivra, l'Écriture dit aussi que l'humain ayant fait les travaux de la loi vivra en eux. Ensuite, verset 13. Un oint nous acheta au dehors à l'agora du sortant de la contre-imprécation de la loi, s'ayant devenu pour nous contre-imprécation. Car elle était graffée sur contre-imprécation, tout celui se suspendant sur un bois. Donc en gros, ce verset 13, il dit que. En fait, il dit juste, grosso modo, qu'un oint nous acheta. Et dans quel état il nous acheta? En ayant subi la contre-imprécation de la loi pour nous. Voilà. Donc, un homme nous acheta où? Au dehors. Plus précisément où? À l'agora. Plus précisément où? En sortant de la contre-imprécation de la loi. Sorti de la contre-imprécation de la loi. Issu de la contre-imprécation de la loi. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire finalement qu'il était sous la contre-imprécation de la loi, dans la contre-imprécation de la loi finalement. Alors, comment expliquer ça? Bah, parce qu'il est devenu contre-imprécation. Il était dans la contre-imprécation. Pourquoi? Car il était graffé sur contre-imprécation, tout celui se suspendant sur moi. Et il a été crucifié. Voilà. Donc en gros, là, le verset 13, il nous dit, voilà, il y a un oint qui nous a acheté. D'accord? Et il nous a acheté en prenant notre place, grosso modo. La même place que nous. Nous, on est sous contre-imprécation quand on sort de la loi. Et lui qui de base n'était pas sous contre-imprécation, s'est mis aussi. Enfin, les humains l'ont mis sous contre-imprécation en le mettant suspendu au bois, n'est-ce pas? Maintenant, cette réalité, elle ne change pas le fait que celui qui sort de la loi est toujours sous contre-imprécation. D'accord? Parce que l'écriture, elle est toujours là. L'écriture, elle est toujours véritable, n'est-ce pas? Et c'est pas parce qu'il y a cette écriture que ça enlève la réalité que le juste, c'est issu de la foi qui vivra. Et petite précision par rapport au verset 11, c'est que le verset 11, grosso modo, nous dit que le juste, il vit grâce à la foi, par la foi, de la foi, mais que, grosso modo, l'humain, l'homme, il vit dans les œuvres de la loi quand il fait celle-ci. Voilà. En gros, les œuvres, les travaux de la loi, c'est un cadre, c'est un lieu où vivre, grosso modo. Voilà, ça va être voilà, c'est ça en fait, c'est une structure de vie. C'est pas de là qu'on vit, si je veux dire, mais c'est là où on vit, en fait, pour faire une allégorie, si je puis dire. ce qu'il y a une différence entre vivre et vivre quelque part. Il y a des gens, ils peuvent vivre, mais ils peuvent vivre dans un fauteuil roulant pendant des années. Il y a d'autres qui peuvent vivre, mais qui peuvent vivre dans des super maisons, très agréables, avec une super famille, un super travail, etc. Voilà. Et donc, celui qui met en pratique les travaux de la loi, il vivra dans ces travaux-là. Voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport à verset 11. On peut aussi lire le verset 13 d'une autre manière, en ce que ce serait « Un oint nous acheta au dehors à la Cora du sortant de la contre-appropriation de la loi ». Ce qui signifierait quoi en fait? C'est-à-dire que l'oint nous aurait acheté ou au dehors ou précisément à l'agora. Et là, ce serait plus ou précisément encore, mais ce serait acquis. Voilà. Et du coup, la réponse, ce serait de, finalement, la contre-imprécation de la loi. Sauf que, du coup, on a le du sortant, la contre-imprécation, le du sortant, qui ferait un peu, je trouve, opposition à cette pensée-là, de ce que la contre-imprécation de la loi serait la personne, enfin, serait, entre guillemets, de manière imagée, la personne qui nous vendrait, en fait. Mais en fait, on pourrait même avoir cette interprétation-là, même si je pense que ce n'est pas la plus naturelle et la meilleure. Mais si on a cette interprétation-là, comment la comprendre par rapport au reste du texte? Je dirais qu'en fait, la contre-imprécation de la loi nous empêchait, nous retenait captifs quant au fait d'être justifié aux yeux de Dieu. Et du coup, Christ, par son sacrifice, nous a racheté de cette captivité quant à la justification aux yeux de Dieu, afin que par le rachat de Christ, nous ne soyons plus sous captivité quant à la justification aux yeux de Dieu, mais que nous soyons par conséquent justifiés en fait aux yeux de Dieu. Voilà, libre de ce qui nous rendait captifs. Quant à la justification aux yeux de Dieu, mais en fait, je suis en train de réfléchir, mais en fait, même cette compréhension, cette interprétation, elle ne serait pas possible parce que même si on n'était pas sous cette contre-imprécation de la loi, on ne pourrait pas être sauvé, même si on était, entre guillemets, parfait aux yeux de la loi de Moïse. Pourquoi?
Parce que la loi n'a pas été faite pour nous justifier vis-à-vis de Dieu. Voilà. Et c'est ce que met Paul. En loi, aucun n'est justifié à côté du Dieu. Et il dit que c'est évident. Et il justifie ça, non pas en disant qu'on est tous condamnés par la loi, bah, non pas en disant que tous ces pécheurs ou que tout le monde transgresse la loi, mais en disant que, il cite, le juste du sortant de croyance se vivra. Voilà. En disant grosso modo qu'en fait, ce qui nous fait vivre, ce n'est pas la loi, nous dit l'Écriture, mais c'est le fait de sortir, entre guillemets, de croyance, le fait d'être de la foi, voilà, issu de foi. Voilà. Autrement dit, que c'est sur la base d'un système qui marche, qui est basé sur la foi, c'est sur la base de ce système-là que l'Écriture nous dit qu'on vit, et non pas sur la base d'un système légaliste, entre guillemets. Voilà. Donc finalement, que la loi nous condamne ou qu'elle ne nous condamne pas, ce n'est pas elle qui va nous justifier devant Dieu. Parce que si c'est elle qui nous justifie devant Dieu quand on n'est pas condamné par elle, alors finalement, c'est comme si on était en train de dire que c'est la loi qui a le dernier mot. Parce que finalement, on serait plus ou moins en train de dire que « Ah, si j'avais transgressé, alors je n'aurais plus été justifié devant Dieu. » Et du coup, certains pourraient peut-être dire « Si la loi ne justifie pas à côté du Dieu, juste sur la base, ou principalement que sur la base du verset qui dit que le juste du sortant de croyance se vivra, pourquoi est-ce que Paul, juste avant, dit que « Autant lesquels du sortant des travaux de loi, ils sont sous l'effet d'une contre-imprécation, ils sont selon qu'il a été graffé sur contre-imprécation, sous lequel, etc. » Pourquoi est-ce que Paul citerait cette parole-là, finalement? Je dirais que c'est simplement pour ajouter du poids à son argument, en fait, à ce qu'il est en train de dire. Pour dire que d'un côté, grosso modo, La loi ne justifie pas à côté de Dieu en ce que l'Écriture nous dit que c'est de par la croyance qu'on vivra, sous-entendu non par la loi, selon qui dit juste après, que la loi n'est pas du sortant de croyance, ce qui signifie finalement qu'en disant que le juste du sortant de croyance vivra, eh bien, il est en train de dire par là que ce n'est pas par la loi qu'il se vivra, autrement dit que ce n'est pas par la loi qu'on est justifié à côté du Dieu. Donc Paul utilise ce verset-là pour dire que ce n'est pas par la loi qu'on est justifié à côté de Dieu, mais il va ajouter à cette réalité, à cette pensée, le fait qu'en plus que ce ne soit pas par la loi qu'on est justifié à côté de Dieu, en plus de ça, la loi, elle, en général, nous met sous contre-imprécation dès lors qu'on sort des travaux de celle-ci. Donc de base, la loi n'est pas faite, si je puis dire, pour nous justifier vis-à-vis de Dieu, du Dieu. Et deuxièmement, la loi, en plus de ne pas être faite, pour nous justifier aux yeux de Dieu, elle va, entre guillemets, nous condamner, nous mettre sous contre-imprécation. Donc là, elles ne peuvent vraiment pas, en plus, nous justifier à côté de Dieu, entre guillemets. Donc le fait de citer comme ça le passage du Tanakh au verset 10, ça permet d'appuyer encore plus ce qu'il va dire au verset 11, ce qu'il dit au verset 11. Et quand on regarde d'ailleurs, le verset 10 et le verset 11 sont liés, mais car, et là il part sur le verset 10, et puis après, au verset 11, il commence en disant « en ce que ». Donc c'est-à-dire, le « en ce que », il concerne ce qu'il y a juste avant. Voilà, donc le verset 10 et le verset 11 sont liés en fait. Et pareil, le 11 et le 12, comme j'ai pu le montrer juste avant. Enfin voilà. Et petite parenthèse, le verset 12, je trouve très intéressant parce que finalement, il est en train de donner, d'une certaine manière, je trouve, la relation entre la foi et la loi. Et il dit finalement que la loi ne sort pas de notre foi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on va connaître la loi automatiquement, par cœur, et qu'elle va sortir de nous, etc. Non. Mais il dit que, grosso modo, ça va être nous qui allons aller dans la loi. Quand il dit « le les ayant fait humain se vivra en eux ». Dans eux, à l'intérieur d'eux, grosso modo. Donc en fait, il dit, voilà, la loi ne justifie pas à côté du Dieu, en ce que on vit de par la croyance, de ce qui sort de notre foi. Or, la loi ne sort pas de notre foi. Et du coup, on pourrait se dire, mais c'est quoi du coup la loi? À quoi sert la loi? Et là, il nous dit, mais les ayant fait humains, donc sous-entendu les travaux de la loi, c'est-à-dire d'une certaine manière la loi, vivra en elle, grosso modo, dans la loi, dans les travaux de la loi. Donc là, il est en train de donner, finalement, je trouve, la relation entre la foi et la loi, c'est-à-dire que, ou non, même pas, finalement, la relation même, je dirais, entre la loi et l'homme, de manière générale, entre la loi et l'humain, et il dit, grosso modo, que voilà, la loi, c'est l'humain qui va dedans, et pas la loi qui sort de l'humain, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez aller voir un humain n'importe qui dans la rue, qui se croit, on va dire, incroyant, et lui dire... T'en penses quoi des tzitzit? Ou t'en penses quoi des tfilin? Et dire, hein, c'est quoi, etc. Parce que la loi ne sort pas de lui, naturellement. C'est à lui d'aller dans la loi. Si je demande, t'en penses quoi de Sukkot, de ceci, d'un point précis de la loi? Il va pas comprendre, il va pas connaître s'il n'est pas croyant. Parce que, naturellement, la loi ne sort pas de l'humain, n'est-ce pas? Et même de la croyance. Il faut aller voir un chrétien. Ben, c'est pas parce qu'il croit en Jésus qu'il va connaître ce qu'est les tfilines ou les titites ou les trellettes, etc., etc. Parce que la loi ne sort pas de la croyance. Mais c'est à l'humain, s'il veut vivre dans la loi, de se mettre dedans. Grosso modo. Comment? En faisant les travaux de la loi. Enfin bon, bref, voilà. Petite parenthèse. Et juste deuxième petite parenthèse pour expliquer le « en ce que » au début du verset 11, parce qu'on pourrait se dire, aux yeux de Paul, le verset 10 est suffisant pour dire qu'on n'est pas justifié devant Dieu par la loi. Ben oui, c'est exactement ça. Mais il ne le dit pas explicitement. C'est entre guillemets logique. C'est pour ça qu'il dit, en ce que, cependant, en loi, aucun n'est justifié à côté du Dieu. Parce que, voilà, si la loi, elle te met sous contre-imprécation à cause du fait que tu sortes de ses travaux à elle, Il est logique qu'elle ne te justifie pas, finalement, à ses yeux, n'est-ce pas? Parce que tu sors de ses travaux, elle te met sous contre-imprécation. Comment est-ce qu'on pourrait voir ça comme une justification de toi à ses yeux? Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Donc, ayant compris ces choses, naturellement, n'est-ce pas, logiquement, il met en ce que cependant, etc. Et en ce que cependant, en loi, aucun justifié à côté de Dieu, etc., etc. Évident. Voilà. Autrement dit, au verset 11, il va comme soulever ce qui était implicite au verset 10. Au verset 11, il va comme soulever explicitement ce qui était implicite au verset 10. Qu'est-ce qui était implicite au verset 10? Qu'on n'était pas justifié par la loi à côté de Dieu. Après, on a le verset 13, je lis « Un oint nous acheta à dehors à l'agora du sortant de la contre-imprécation de la loi, se ayant devenu pour nous contre-imprécation de point, car elle était graffée sur contre-imprécation tout celui se suspendant sur un bois. » Alors là, et après il va mettre au verset 14 « Afin qu'envers les ethnies, l'éloge de Abraham est devenu en un oint Yesus, afin que la promesse du souffle nous ayons pris par la croyance. » Voilà. Donc en fait, le verset 13 et le verset 14, ils sont liés de par le « afin que » du verset 14. Maintenant, en fait, c'est quoi le « afin que » Enfin, comment dire? Je vais commencer par le verset 13. En gros, c'est quoi? C'est « un oint nous acheta où ?» Au dehors, précisément où ? À l'agora, précisément où ? Du sortant de la contre-imprécation de la loi. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu pour nous contre-imprécation. Pourquoi ? Car elle a été graffée sur contre-imprécation, tout celui se suspendant sur un bois. Or, nous savons que notre oint, eh bien, il a été suspendu à un bois, si on peut dire, n'est-ce pas? Il a été crucifié. Donc, il a été quoi? Il a été contre-imprécation. Il est devenu contre-imprécation. Il était sous un contre-imprécation. Voilà. Et quand est-ce qu'il était sous contre-imprécation? Au moment, plus ou moins, de l'achat. C'est au moment où il est décédé, c'est-à-dire au moment où il est sorti de la contre-imprécation parce qu'il était, il était mort, qu'il nous a acheté. Voilà. Et il nous a acheté pourquoi? Afin qu'envers les ethnies, l'éloge de Abraham est devenu en un oint Yesus, afin que la promesse du souffle nous y ayons pris par la croyance. C'est pour ça qu'il nous a acheté Jésus, n'est-ce pas? Envers les ethnies, l'éloge de Abraham est devenu en lui. Voilà, en un oint Yesus, pour que le salut soit en lui. Voilà, son sacrifice, c'est pour que le salut soit en lui, n'est-ce pas? Enfin, ça permet ça. Afin que la promesse du souffle nous ayons pris par la croyance. Voilà. Et donc, en fait, le verset 14. Il va parler vers la fin de choses dont il n'a pas encore forcément beaucoup parlé jusqu'alors, notamment par exemple la promesse du souffle, je trouve, et le fait qu'on prenne ça par la croyance. Voilà. Et je trouve qu'il va développer ces notions, cette compréhension du verset 14, surtout dans la suite du chapitre 3. Voilà. Donc je trouve que ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de comprendre, ou d'expliquer plutôt, pardon, le verset 14, à partir de ce qu'on vient de lire. Mais on pourra plutôt l'expliquer à la suite de ce qu'on aura lu après, donc, c'est-à-dire du verset 15 au verset 29, voilà, notamment. Donc voilà, de toute façon, j'ai déjà parlé du verset 12, du verset 13, n'est-ce pas? On n'a qu'à dire que c'était un petit complément ce que j'ai fait là. Et juste, troisième petite parenthèse, si je puis dire. Le verset 14 permet de dire quoi, finalement? Il permet de dire, à mes yeux, de répondre plutôt à la question « Pourquoi est-ce que Jésus nous a achetés, nous a rachetés ?» Réponse, Galates chapitre 3, verset 14. « Afin qu'envers les ethnies, l'éloge de Abraham est devenu en un oint Yesus. Afin que la promesse du souffle nous ayons pris par la croyance. » Voilà, je dirais ça. Maintenant, que les travaux de la loi soient un lieu où vivre et non ce qui nous fait vivre ou ce qui nous fera vivre, on peut le voir aussi au verset 10 quand il dit « tout lequel ne reste pas dans », ne reste pas dans, à l'intérieur. Donc on voit que dans la mentalité, il y a cette espèce de boîte, si je puis dire, de structure, de lieu de vie en fait, où on est, voilà, d'emplacement, où on se situe, là où on va. Et ça, on peut le voir même dans d'autres expressions dans la Torah, en mode l'éternel pour moi ma haute citadelle, mon haut refuge, où je me réfugie, etc., etc. On peut faire des liens aussi par rapport à tout ça, par rapport à la Torah et par rapport à ces psaumes. On voit que David se réfugie dans,
en l'éternel, sous les ailes. Il y a toujours cette notion, je trouve, de lieu, en fait, de refuge, si je puis dire, de lieu de bénédiction, de lieu de paix, de protection, etc. Et dernier petit point, je pense, c'est par rapport à l'interprétation que je fais du verset 13, par rapport à du sortant de la contre-imprécation de la loi, à savoir que je vois ça plutôt comme une location, entre guillemets, un emplacement plutôt qu'une personnification de la contre-imprécation. Je trouve que mon interprétation est plus littérale, en fait, que littérale que l'interprétation qui interpréterait du sortant de la contre-imprécation de la loi comme étant comme personnifiant en fait la contre-imprécation. Voilà. En mode, il nous a acheté à la personne, entre guillemets, de la contre-imprécation. Voilà. En fait, mon interprétation, bah, je la trouve vraiment totalement littérale, totalement terre-à-terre, alors que l'interprétation, si je ne me trompe pas, de la plupart des chrétiens, qui va personnifier la contre-imprécation comme la personne à qui Jésus nous aurait acheté, et figurer, en fait, enfin, se base sur une compréhension figurée du passage. Voilà. Ils lisent le texte avec un peu plus de hauteur, entre guillemets. Voilà. Alors que mon interprétation est beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre. Hein. Je veux dire, c'est factuel, hein, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Et du coup, que dire en guise de conclusion, on va dire, sur ces 13, 14 premiers versets? Ben, je dirais simplement, par rapport à ce qu'on a pu lire juste avant, au chapitre 1 et 2, que là, Paul va essayer de reprendre les Galates par rapport à leur faux évangile, entre guillemets, hein, selon le chapitre 1, verset 6. Il va essayer, entre guillemets, de leur remettre les idées droites, les idées en place, voilà, en leur disant justement que personne, par la loi, n'est justifié vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça... c'est ça le vrai problème, si je puis dire, des Galates, c'est qu'ils pensent grosso modo qu'on est justifié aux yeux par la loi, n'est-ce pas? Et ça, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un salut par les œuvres, comme les musulmans croient que c'est par la loi qu'on accède au paradis, etc., etc., comme quasiment tous les peuples de la terre, n'est-ce pas? Donc voilà, pour ça, il va parler d'Abraham, il va dire grosso modo que la loi, elle est, d'une part, l'écriture nous fait savoir qu'elle n'est pas faite grosso modo pour nous justifier aux yeux de Dieu, et puis qu'en plus, dès qu'on sort d'un travail de la loi, eh bien, elle va nous mettre sous contre-imprécation. Et puis voilà, il commence, si je puis dire, un raisonnement un peu par rapport à tout ça. En fait, il rentre, si on peut dire, dans le vif du sujet. Voilà. Et puis du coup, c'est censé continuer avec la suite du chapitre 3.